en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour, ici Elisabeth Antebi qui va tailler un habit vert à Max Gallo, tout nouvel académicien.
Bonjour.
Bonjour. Alors, d'abord Max Gallo, une question que j'ai rarement posée parce que j'ai rarement vu d'académicien tout neuf. Quel effet ça fait ?
Oh, écoutez, c'est complexe. Je trouve que la période la plus impressionnante, c'est évidemment celle qui sépare le moment où on est élu de la séance d'intronisation, si j'ose employer ce mot.
Oui.
Oui, parce que c'est une période dans laquelle on ignore finalement les rouages de l'académie. Il faut les découvrir, il faut passer chez un tailleur. On ne sait pas où vont avoir lieu les réceptions qui vont suivre, tous ces aspects matériels que je n'aime pas régler et qui, en fait, brusquement apparaissent et qu'il faut régler.
Donc, c'est très matérialiste, alors, comme
c'est très matérialiste,
approche.
Non, parce qu'en même temps, c'est l'aspect factuel. Moi, je suis historien de formation, donc avant de parler de l'âme, je parle des faits brutaux, réalistes, comme vous dites. Alors, comme travail intellectuel, il y a évidemment l'inquiétude qu'on peut avoir quand on écrit un discours. Le discours du prédécesseur, de celui sur le siège duquel on a été élu, qui était heureusement Jean-François Revel, malheureusement parce que c'était un ami très cher, mais heureusement parce que je connaissais son œuvre pour l'avoir côtoyé une trentaine d'années. Donc j'ai eu, d'une certaine manière, beaucoup de malchance car j'ai perdu un ami qui a disparu, mais en même temps j'ai eu beaucoup de chance parce que je connaissais intimement Jean-François Revel, mais précisément parce que je le connaissais.
Vous étiez ensemble à l'Express, qu'il faut dire.
On était ensemble à l'Express, on a été éditeurs ensemble, éditeurs conseils aux éditions Robert Laffont pendant des années, et je vous dirais qu'il a joué, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le discours que j'ai prononcé à l'Académie, son éloge, il a joué un très grand rôle dans ma vie parce que j'étais professeur dans une université de province à Nice, en chancelier l'histoire contemporaine, il y a exactement 40 ans, c'est-à-dire en 1968. Et j'ai écrit un petit essai sur les événements de mai 68 que je lui ai envoyé par la poste et qu'il a trouvé bon, en tout cas, il n'a pas trouvé mauvais, et qu'il a publié. Et puis, de contact en contact, nous sommes devenus proche, il m'a proposé de le rejoindre aux éditions Robert Laffont, mais quand il est devenu directeur de l'Express, il a abandonné un éditorial d'idées qu'il faisait chaque semaine, une page de l'Express, et m'a demandé si je voulais bien le remplacer, ce que j'ai fait. Donc d'une certaine manière, ma vie a été ponctuée par le fait que j'ai remplacé chaque fois Jean-François Revel.
Vous êtes bien modeste, oui.
Non, c'est pas modeste, ce sont les faits. Après, on les interprète comme on veut, mais je vais vous dire.
Oui, vous êtes même parti parce que lui est parti, je crois.
Exactement. Oui. Quand il a démissionné à la suite d'incidents multiples dans lesquels j'étais pas concerné, mais par solidarité, je suis parti. J'ai démissionné en même temps que lui, oui, en 81.
Alors, d'abord, il faut parler de Nice, parce que Nice a joué un rôle déterminant dans votre vie, évidemment. D'abord, vous y êtes né. Vous y avez passé la guerre, sans savoir, je crois d'ailleurs, que votre père était résistant.
Je ne le savais pas, mais disons que l'atmosphère, avec le recul, l'atmosphère de la famille était marquée par une sorte d'angoisse latente que je sentais bien liée aux événements de la guerre. Je ne savais pas ce que faisait mon père, mais je sentais bien, j'avais 7-8 ans, et je sentais bien qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire, même si je ne savais pas ce qu'il ne fallait pas dire. Mais enfin, que, en tout cas, on n'était pas dans une atmosphère de liberté. On sentait qu'il était entouré par des menaces. Je me bornerai à ça, c'est tout ce que je sentais, mais ça, je l'ai très bien senti.
Est-ce que sans aller trop loin, on peut dire que c'est pour ça que depuis, vous n'arrêtez plus d'essayer de déblayer et de dire et de dire et de dire ? Ce que vous dites vous-même dans le discours de l'Académie, j'ai dit beaucoup de mots dans ma vie, je crois que vous commencez un peu comme ça.
Oui, j'ai beaucoup écrit, trop en dit certains, et beaucoup parlé, trop en dit certains, mais ça ne me dérange pas. Mais je voulais commencer par ce fait brut. Non, ce qui est marquant pour moi, en y réfléchissant plusieurs fois sur l'enfance, je suis à un âge où on commence à s'interroger sur sa propre enfance, où on continue de s'interroger, c'est le fait que la guerre, à partir des années 38, moi je suis né en 1932, j'avais donc 6 ans en 38 et 4 ans en 36. À partir de l'âge de 4-5 ans, j'ai été environné par les événements historiques, que ce soit le Front populaire, les grèves, les manifestations, puis Munich, le défilé des troupes, puisqu'il y a eu une ébauche de mobilisation, un début de mobilisation. Je revois les chasseurs alpins défiler sur l'avenue principale où j'habitais, à Nice. Puis l'effondrement, la guerre qui était proche, parce que dans la deuxième quinzaine de mai 1940, les Italiens ont déclaré la guerre à la France. Nice, c'est sur la frontière italienne, c'est à une trentaine de kilomètres. Et donc, nous avons quitté Nice, enfin, une partie de la population a quitté Nice et s'est réfugiée un peu dans les hauteurs. Et donc, la guerre a été là. Puis après, il y a eu la période de la France, de la zone libre, mais avec les manifestations, le maréchal Pétain, les défilés, etc.
Vous, qu'est-ce qui vous a le plus excité, si je puis dire? Qu'est-ce qui était le plus gai, finalement? Parce que souvent, vous racontez les choses d'une manière sinon tragique, du moins, d'ailleurs c'est votre talent, du moins dramatique, puisque souvent il s'agit de drames et de scénarios assez dramatiques. Qu'est-ce qui vous a le plus excité ou fait rire dans cette période-là?
Rien. Moi, je ne suis pas quelqu'un de gai. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de triste. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de pessimiste. Je suis quelqu'un d'actif. Je suis quelqu'un qui, en effet, puisque vous avez employé ce verbe, je vais le réutiliser. Je suis quelqu'un qui suis excité par l'actualité, par les événements. Mais je ne les trouve pas gais. Ma gaieté, mon intérêt, mon accroche avec la vie vient du fait que je suis intéressé. Cet intérêt a commencé précisément dans l'enfance, qui m'a, compte tenu des circonstances, qui m'a constamment placé en dehors de la vie quotidienne. Et ça, j'ai gardé pour la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie banale, enfin banale, c'est pas le mot, mais la vie, la sagesse, le calme d'une vie quotidienne, sans rapport avec la société, le repliement sur soi, la réflexion. Ce sont des choses auxquelles je n'ai pas été accoutumé. Moi, mon univers mental et mon caractère se sont dessinés probablement, précisément à cause de la guerre et de ce qui a précédé et de ce qui a suivi, comme une succession de moments paroxystiques, c'est-à-dire de l'histoire qui est présente, la grande histoire, que ce soit la libération de Nice, avant, quelques jours avant, quelques semaines avant, la pendaison de deux résistants à quelques centaines de mètres de chez moi, sur lesquels je suis allé voir comme un enfant de 12 ans, j'ai regardé, j'étais un voyeur, si vous voulez, un voyeur de l'histoire. Et je crois réellement que cela, plus le fait que mon père était un ancien combattant de la guerre de 14-18, qu'il avait le don...
Oui, parce qu'il venait du Piémont, mais alors on ne connaît mal l'histoire de votre père.
Mon père ne venait pas du Piémont. Mon père était déjà né à Nice, son père venait du Piémont, et ma mère était italienne, elle était née en Italie. Mais, si vous voulez, mon père m'a fait le récit extrêmement précis, parce qu'il aimait conter, de la guerre de 14-18, si bien que je suis un contemporain de la guerre de 14-18, même si je suis né 20 ans plus tard.
Mais ça, c'était une époque. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec vos propres enfants, qu'on ne raconte pas de la même manière? Moi aussi, par exemple, je chantais les chansons d'Yvette Guilbert, parce que mon père les chantait. Est-ce que vous avez le sentiment, avec vos propres enfants, de transmettre de la même manière que votre père l'a fait pour vous?
Écoutez, malheureusement, oui. Je dis malheureusement,
malheureusement,
oui, parce que j'ai un fils qui est agrégé d'histoire, qui est jeune, qui a 23 ans, qui a passé une agrégation d'histoire, l'école, je suis fier de lui, l'école normale supérieure, etc. Et c'est vrai que, tout jeune, finalement, je lui ai raconté la guerre, je lui ai fait voir la Deuxième Guerre mondiale, cette fois-ci, plus, évidemment, la Première Guerre mondiale, puisque je lui parlais de son grand-père qu'il n'a pas connu, mais de ce qu'il m'avait raconté. À tort ou à raison, peut-être est-ce que je dois le regretter, peut-être est-ce que je le regrette d'ailleurs, mais à tort ou à raison, je lui ai transmis un capital de mémoire, celle de son grand-père et même de ses arrière-grands-parents, et mon capital de mémoire, je lui ai transmis. Est-ce que c'est pour cela qu'il a une passion pour l'histoire et qu'il est devenu historien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de coupure de mémoire entre lui, moi et ce qui m'a précédé. Il y a une continuité mémorielle.
Est-ce que le fait dont on parle souvent, vous êtes le seul académicien à avoir un CAP d'ajusteur, je crois.
Je ne sais pas, peut-être.
On n'a pas fait de sondage, mais enfin, c'est assez rare. Est-ce que ça aussi, ça a compté pour vous, ou est-ce que c'est pour vous anecdotique?
Non, ça a beaucoup compté. Ça a beaucoup compté, puisque finalement, mon enfance a été marquée, jamais par la misère, jamais, mais par une succession, s'il faut être franc, bien que ce soit peut-être pas nécessaire d'étaler ses sentiments, mais enfin je vais le faire puisque vous m'interrogez, qui a été marquée par une série d'humiliations, si vous voulez, qui a tout à fait disparu tout ça. Mais enfin, en tout cas, ça a pesé, une certaine timidité, une certaine...
Quel genre, social ou parce que vous étiez italien d'origine?
Non, social, oui. Humiliation sociale, c'est-à-dire être dans un collège technique, accolé à un lycée classique, avoir la nostalgie de faire des lettres, du latin, du grec, ne pas en faire ou en faire seul, si vous voulez.
Vous l'avez fait seul, alors?
Seul. Parce qu'après, quand j'ai voulu préparer l'agrégation d'histoire, il était utile, sinon indispensable, j'ai considéré que c'était utile, d'apprendre le latin.
Et le grec, vous ne l'avez
pas
appris ?
Le grec, non. Quelques rudiments, mais on peut dire que non.
Oui.
Mais le latin, oui, puisqu'on pouvait avoir à l'agrégation, ou dans un certificat d'histoire ancienne, par exemple, de licence, on pouvait avoir un texte en latin.
À l'époque, on pouvait rêver de faire du latin et du grec.
Ça semblait faire partie, je dis, de mon point de vue d'adolescent, ou de, même déjà de quelqu'un qui avait une vingtaine d'années, quand je commençais à faire des études d'histoire, ça m'apparaissait nécessaire comme faisant partie, précisément, de ce que l'on devait savoir. Je considérais que c'était donc utile.
Toujours aujourd'hui, vous diriez ça, vous avez dit ça à votre fils ou pas ?
Non, mon fils a fait du grec, il a abandonné assez vite, il a fait du latin jusqu'à l'hippocagne, et il a abandonné aussi.
Alors c'est assez curieux parce que dans toute votre œuvre revient de temps en temps une ombre ou une évocation des Romains. La fille
oui,
du narrateur se moque des Romains.
J'ai été très fasciné, je le suis encore, d'ailleurs j'ai écrit 5 gros volumes.
Mais justement, alors c'est venu très tard, cette histoire des Romains, on sent que ça arrive.
Elle est venue très tard, oui et non, parce que si vous considérez que c'est très tard,
enfin,
1976, c'est déjà loin.
Ça c'était
1976,
César,
j'ai écrit un livre,
oui.
Non, c'est pas César, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Que sont les siècles pour la mer ?»
Ah oui, c'est vrai.
Un livre qui raconte, en fait, et là je dois cela à Nice, Nicaïa, Sémélénum, Trophée d'Auguste, cadre dans lequel j'ai vécu, les arènes de Nice, etc., les fouilles préhistoriques. Et j'ai raconté dans ce livre, que moi j'apprécie comme un de mes fils préférés, si vous voulez, c'est un livre qui raconte la naissance d'une ville depuis sa fondation, précisément par les Grecs, en 600 avant Jésus-Christ, puis l'arrivée des Romains, puis le développement médiéval, jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'ai eu très vite le sentiment, probablement à cause de mon enracinement dans ce milieu géographique et historique, j'ai eu très vite le sentiment de la continuité historique. Et j'ai eu très vite envie de l'exprimer, d'exprimer la totalité d'une histoire. Et vous dites, je suis arrivé tard à écrire l'histoire des Romains, parce que ma spécialité historique d'universitaire, c'était l'histoire contemporaine. J'ai donc travaillé sur l'histoire contemporaine.
Vous avez commencé par Mussolini, je crois.
Enfin, oui, c'était l'histoire contemporaine.
Oui.
Et après, en faisant au fond de la régression historique, en cherchant chaque fois, en déterrant des racines de plus en plus profondes, je suis arrivé tout naturellement à la France chrétienne de Clovis. J'ai donc écrit 3 volumes qui s'appellent Les Chrétiens. Puis, après Les Chrétiens, régression, j'ai fait César. Et puis après, je me suis intéressé réellement à la matrice, c'est-à-dire les Romains. Je n'ai rien fait sur les Grecs.
Les Grecs, Aspasie, Périclès.
Non, peut-être parce que mon rapport précisément à la langue grecque, à la culture grecque, du fait de mon parcours personnel comme élève, puis comme étudiant, m'ont laissé un peu à l'écart de ça. En tout cas, je n'ai pas eu une connaissance intime comme je l'ai eu finalement de Rome, puis de la suite.
Il y a un passage aussi, on parlait tout à l'heure, hors caméra, du rire, du fait que vous, d'ailleurs on en a parlé un petit peu, du fait que vous êtes un homme sérieux. Très sérieux. Et à un moment donné, il y a un très joli passage où vous avez un petit regret, me semble-t-il. Si je me rappelle bien, je ne sais plus dans quel livre, vous regardez un buste de Voltaire, et vous vous dites que vous auriez bien aimé finalement avoir de temps en temps son sourire sarcastique, vous le voltairien.
En citant ce titre, vous me faites plaisir, puisque je suis en train de corriger les épreuves d'une biographie de Voltaire qui doit sortir à la rentrée. Donc le personnage m'intéresse, mais Voltaire était en effet un sarcastique, plein d'humour, de fantaisie, Mais je ne sais pas si je suis voltairien. J'aime beaucoup le parcours du personnage, il m'intéresse beaucoup. Mais en effet, je suis plutôt dans la gravité. J'ai écrit une biographie de De Gaulle, une phrase de Gaulle qui disait un peu trivialement, comme il lui arrivait de parler comme cela, brutalement,
il disait,
on n'est pas ici pour rigoler. D'une certaine manière, c'est ce que je pense.
Alors, dans votre série romaine, moi, ce qui m'a frappé, ce qui a frappé certainement d'autres gens que moi, mais enfin, c'est le tropisme, si l'on peut dire, religieux. C'est-à-dire qu'au fond, les Romains vous intéressent dans la mesure où les uns sont les auteurs du martyre des chrétiens. En Néron, vous soulignez l'Antéchrist. En Titus, l'adversaire des Juifs. Avec Marc Aurèle, vous parlez du martyre des chrétiens. Et avec Constantin le Grand, vous célébrez l'Empire du Christ, évidemment. Bon, est-ce que c'est ça qui vous fascine aussi dans l'héritage romain ?
Bien sûr, c'est ça qui me fascine, si vous voulez, dans la mesure où je ne participe pas de ceux qui pensent que, finalement, l'Empire romain a été détruit par le christianisme, comme certains le pensent, d'ailleurs. Je suis de ceux qui pensent, au contraire, que c'est par l'Empire romain que le christianisme s'est installé. Pour moi, c'est une évidence. Et donc, ce qui m'a intéressé aussi, en écrivant à la fois Les Chrétiens, les trois volumes sur l'évangélisation de la France, et en même temps avec les Romains, c'est de voir comment se déploie précisément le christianisme à l'intérieur de cette situation de persécution et comment peu à peu le christianisme l'emporte, survit et va être au fond l'héritier de l'Empire romain et préserver l'héritage de l'Empire romain d'une certaine manière.
Alors, on dit un peu que le stoïcisme a inspiré aussi le christianisme.
C'est
donc
sûr,
ça vient de très loin.
Bien sûr, bien sûr.
Vous commencez d'ailleurs, je crois, vos cinq livres par Spartacus, en disant que l'esclavage est un facteur économique de l'Empire romain, ce qui est un peu provoquant aujourd'hui, mais enfin qui est vrai, évidemment. Est-ce que ça n'est pas aussi une manière de considérer l'autre ? Parce que dans le monde antique, que ce soit en Grèce ou à Rome, l'esclave est un vaincu, et l'étranger
oui,
même.
Oui, l'esclave est une bête, considéré comme un étranger, mais comme un animal. Et précisément, toute la démarche, enfin, ce que Alain Decaux, dans un de ses livres, a pris pour titre d'un de ses livres, « La révolution de la croix », je crois qu'effectivement, quand je termine Spartacus par la fameuse crucifixion de 6000 esclaves entre Capoue et Rome, et qu'on sait que le Christ a été crucifié, on voit bien que ce choix ou ce destin, ou en tout cas ce qui s'est passé avec le christianisme, c'est l'affirmation que celui qui est soumis au supplice des plus humbles, ce dont l'humanité est même niée, celui-là affirme que finalement tout homme porte en lui une part de divinité et tout homme doit être respecté comme homme. Et donc c'est ça la grande révolution chrétienne. Si j'ai commencé par Spartacus, c'est précisément comme un premier pas vers cette humanisation des rapports humains qui n'en a jamais terminé, bien entendu, car je pense par ailleurs qu'une des tendances de l'homme, j'emploie souvent cette formule, c'est que l'homme est un anthropophage. Il mange de l'homme.
Oui.
Et j'ai même pensé, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les fanatiques », un autre qui s'appelle « Le pacte des assassins ». Et dans ces deux derniers livres, j'ai hésité dans les deux cas à les titrer l'un ou l'autre. Finalement, j'ai renoncé à ce titre. « Moloch », cette divinité antique qui se nourrissait précisément de jeunes enfants. Pour bien marquer qu'il y a une dimension anthropophage, cannibale.
Alors là, vous n'allez pas avec le dos de la cuillère, quand j'ai lu Les Fanatiques, par exemple. Est-ce que dans les gens qui vous écrivent, ça c'est assez intéressant, parce que vous devez en avoir pas mal, il y a des choses qui vous ont intrigué ou qui vous ont poussé à écrire autre chose ?
Non, je reçois souvent des lettres. Par exemple, j'ai publié un essai qui s'appelle « Fier d'être français », qui a suscité une immense correspondance, qui dans l'ensemble, à 99%, a été très très positive, m'encourageant à continuer dans cette voie-là. Mais je ne suis pas très sensible aux conseils que me donnent les lecteurs. Je pense qu'il faut, surtout quand on n'a pas fait un long parcours déjà, on est habitué aux variations d'humeur de ceux qui vous entourent, donc la seule sagesse, c'est de continuer à faire ce qu'on a envie de faire, en fonction de sa propre évolution, et surtout en fonction des propres questions qu'on se pose. Écrire un livre, c'est le découvrir, c'est découvrir le livre, parce que moi je ne crois qu'à la loi de la surprise, à l'histoire, et d'une certaine manière, quand j'écris, je veux me surprendre. Je n'écris jamais avec un livre qui est déjà terminé dans ma tête. Le livre doit être ouvert parce que les personnages doivent être ouverts. Non pas qu'ils vous échappent, ça c'est une formule, mais chaque personnage a sa propre logique. C'est pour ça que je suis attaché non seulement à la biographie, aux livres d'histoire classiques, enfin j'en écris moins aujourd'hui, mais les biographies j'en écris, et j'écris des romans, parce que dans le roman, si vous voulez que le roman soit pour le lecteur, quel que soit ce lecteur, soit quelque chose auquel le lecteur peut croire et adhérer, il faut que le roman reflète toute la réalité, tous les points de vue. C'est pour ça que quand vous me dites « Les fanatiques, ça exprime ça », je vous réponds, si vous lisez avec attention « Les fanatiques », vous verrez que tous les points de vue sont exposés.
Après, le lecteur, c'est vrai, mais...
tous les points de vue sont exposés. Je ne prétends pas à l'objectivité, je dis que je ne fais taire personne dans un roman. Parce que je ne peux pas le faire, parce que je crois à, au fond, l'irréductibilité de la personne, et je crois, et je mets en application ce que j'affirmais il y a quelques instants, à savoir que l'autre est aussi un homme. Donc le roman ne doit pas être traversé par l'excommunication, un roman ne peut pas être une œuvre de condamnation.
Vous rappelez d'ailleurs, je crois que c'est dans Les Fanatiques, que la seule religion à avoir dit que on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est
la religion
chrétienne.
Oui, mais ça c'est un personnage qui dit ça. Vous avez quelqu'un qui dit autre chose à côté. Et la meilleure preuve, c'est que dans Les Fanatiques, vous avez le père qui est professeur d'histoire romaine et qui...
Qui a pour ami Max, quand même.
Oui, d'accord, c'est un clin d'œil que j'adresse à mes lecteurs et je m'adresse. Mmh. C'est Max qui recueille ce manuscrit de ce professeur d'histoire romaine, mais ce professeur d'histoire romaine qui croit à la civilisation occidentale, etc., qui serait quelqu'un qui dresserait un réquisitoire contre l'islam, ce qui est vrai dans le livre, il a une fille, sa propre fille, auquel il croit avoir transmis ses valeurs, qui se convertit à l'islam.
Oui, mais enfin, elle n'a pas bien d'arguments, puis elle n'est pas bien sympathique.
Ah non, ça c'est votre point de vue. Moi, en tout cas, le père, lui, est obligé de considérer que sa propre fille, c'est-à-dire ce qu'il a de plus cher, choisit une voie que lui considère comme tout à fait une impasse. Donc, c'est, si vous voulez, je crois que le roman, enfin en tout cas, c'est ma philosophie en matière de roman, c'est que le roman, l'éthique du romancier, pour moi, elle est la suivante. Il faut que le lecteur, en vous lisant, ait le sentiment que ce qu'il croit opaque, incompréhensible, est plus transparent qu'il n'imagine. Mais en même temps, il faut qu'il croie que ce qui est transparent est plus opaque qu'il ne l'imaginait. C'est-à-dire que la vie humaine et les rapports sociaux sont tramé par la complexité, la contradiction, et je crois que l'œuvre du romancier, c'est précisément de montrer cette transparence dans l'opacité et cette opacité dans la transparence.
Mais vous aimez les êtres de paroxysme, y compris dans vos biographies. Vous prenez Vallès, vous prenez des hommes qui ont fait la France, selon vous, je pense.
Oui, c'est vrai. Mais parce que je crois que quand on prend des personnages qui ont cette dimension, en même temps, ils sont ceux qui incarnent un moment historique, un pays, un moment historique, une pensée, une croyance, et que de ce point de vue-là, ils sont précisément intéressants parce que je crois qu'une vie vaut la peine d'être vécue si elle réussit à être unifiée, à s'unifier. Ce qu'il y a de plus tragique pour moi, c'est l'écartèlement et l'unification, l'unité d'une existence qui est difficile à atteindre, car on est toujours déchiré, divisé, je le suis en permanence d'ailleurs.
Toujours.
Enfin, ça m'arrive, en tout cas, oui, je crois que je suis un être contradictoire, comme tous les êtres d'ailleurs. Je crois qu'il faut exprimer l'unité de la vie, et j'ai souvent cité une phrase de Saint Bernard, j'ai écrit une biographie de Saint Bernard d'ailleurs, dans Les Chrétiens, c'est le tome 3 qui s'appelle La Croisade du Moine. Saint Bernard dit « Il faut d'abord tenter de ne point être en dissidence avec soi-même. Et ça, pour moi, c'est une grande morale, c'est-à-dire être unifié.
C'est difficile ?
Ah, c'est très difficile parce qu'on est écartelé par des tendances qui sont en soi, on est écartelé par des choix sociaux qui vous imposent à un moment donné d'hésiter, de choisir, mais il faut chercher l'unité.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.
L'écrivain Frédéric Vitou de l'Académie française se confie à Canal Académie. Il raconte sa passion pour Céline, sa biographie de Rossini, son œuvre de critique, de romancier, de scénariste. Frédéric Vitou, une vie littéraire bien remplie, dans l'émission En habit vert sur Canal Académie.
Alors, qu'est-ce qu'il y a, au fond, sur ce qui vous résume ici pour l'Académie française, sur le pommeau de votre épée ? Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre ?
Écoutez, beaucoup de choses.
Ah, c'est sûr, puisque vous êtes un homme de contradictions. Mais lesquelles ?
Beaucoup de choses. Écoutez, j'ai commencé par mettre ce qui peut paraître contradictoire, mais à mes yeux ne l'est pas. Enfin, ce n'est pas dans l'ordre. J'ai mis un certain nombre de prénoms. Prénom de ma
femme.
Mère, prénom de ma grand-mère.
Oui. Oh, votre grand-mère porte un merveilleux prénom.
Elle s'appelle Italine.
Ah oui, c'était magnifique, ça. C'est
ma mère porte un nom
oui,
bizarre
très joli
qui
aussi.
S'appelle Mafalda,
oui.
Qui était la fille du roi du Piémont. Mon prénom était le prénom de la fille du roi du Piémont, devenue roi d'Italie. Une fille qui malheureusement est décédée, qui s'appelle Anne, un fils qui s'appelle David, et le prénom de mon frère, qui s'appelle Gérard, et le prénom de mon père, qui s'appelle Joseph, mais qu'on abrégé en J, en provençal, enfin, ou en niçois. Ensuite, il y a une fleur de lys et un bonnet phrygien, c'est-à-dire que je ne crois pas à la coupure de la Révolution française, ou plutôt, je crois à cette coupure, elle est importante, mais en même temps, je crois à la continuité de l'histoire nationale. Donc, fleur de lys et bonnet phrygien. Ensuite, j'ai placé le coq gaulois, car gallo, vous le savez, signifie coq. Donc, je suis un celte de Cisalpine, par mes origines. Donc, il y a ce coq gaulois avec la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et puis, il y a le blason de la ville de Nice, qui est une aigle, aile déployée et... ses serres, les serres de cet aigle, serrant des pics alpins. C'est un très beau blason, d'ailleurs, de la ville de Nice. Et ensuite, j'ai fait graver une sentence que je me suis forgée il y a des décennies, mais que j'ai retrouvée, et qui est ceci. « Fais ce que tu crois être le seul à pouvoir faire. » Ce que tu crois, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Essaie de faire ce que tu crois être le seul à pouvoir faire. Vous voyez que ça fait beaucoup de choses sur une épée.
Oui, pour être bretteur avec une épée pareille, ça
non,
doit être difficile.
Le très légère, non, c'est tout ça tient sur le pommeau de l'épée. Hein.
Bon, oui. Et ça comptait pour vous ? Vous y avez longuement réfléchi ou...
Écoutez, je ne savais pas qu'il fallait le faire, mais on m'a dit une épée. J'ai choisi une épée du Premier Empire, de l'Institut d'Égypte. Parce que la personnalité de Bonaparte m'intéresse.
Vous avez écrit sur Napoléon aussi.
J'ai écrit sur Napoléon,
sûr,
donc c'était une épée de l'Institut d'Égypte. C'est une épée de l'Institut d'Égypte. Puis on m'a dit qu'il fallait trouver à la personnaliser à l'aide de noms ou de sentences, etc. Et donc je suis arrivé à cette sorte de somme de symboles qui sont significatifs.
Puisque nous sommes dans l'académie, est-ce qu'il y a un mot ? Vous allez travailler sur le dictionnaire.
Je travaille tous les jeudis matins sur le dictionnaire depuis mon
arrivée. Ah déjà, oui, c'est vrai, bien sûr, vous travaillez déjà. Et alors, est-ce qu'il y a déjà un mot sur lequel vous aimeriez bien travailler ou que vous aimeriez introduire ?
Non, le mot qui m'a été donné, attendez, quand vous êtes présenté avant même le discours, on vous fait parler sur un mot, mais quel était ce mot ?
Ah bon,
déjà,
non,
j'ai oublié
pas.
Ce mot.
Oui.
J'ai oublié.
Bon, ce n'était pas un mot péremptoire. Alors.
Ce n'est pas un mot péremptoire.
Bon, alors il y a une autre chose que nous avons oubliée, c'est quand même les femmes. Vous avez écrit Le regard des femmes, vous avez quelques femmes qui traversent, ben, bleu, blanc, rouge, c'est
trois
femmes.
Trois noms de femmes.
Trois noms de femmes et trois femmes incarnent trois périodes depuis la Révolution jusqu'à 1930.
Non, jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, oui, Sarah, jusqu'à aujourd'hui. Or, les femmes, vous les traitez un peu étrangement, je trouve, dans vos livres. Quand vous disiez tout à l'heure, c'est un monde d'hommes, finalement, que votre monde. Même Vallès, Séverine,
qui était quand même un personnage extraordinaire. Les femmes qui sont sur le pommeau de votre épée sont votre mère et votre grand-mère.
Non, il y a aussi le prénom, de ma femme que j'ai oublié là. Mais qui est sur le pommeau
d'épée. Ah, vous voyez, vous l'avez sur le oublié.
Je l'ai oublié. Non, mais ça, c'est pudeur, mais je l'ai oublié.
Je dis ça en rien, oui.
Il est en effet sur le pommeau de l'épée, Marielle.
Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que ça n'est
pas
du tout...
Non, écoutez, j'ai écrit une biographie que je crois une biographie qui m'a beaucoup émue sur une révolutionnaire qui s'appelle Rosa Luxembourg.
Ah oui, alors il y a Rosa Luxembourg, évidemment, ça n'est pas une femme délicate et...
Ah, c'est très délicate. C'est une grande... Un personnage d'une hypersensibilité.
Oui.
Qui est un très beau personnage. Un très beau personnage féminin, je veux dire. Très en avance sur son temps. Très féministe avant la lettre, puisqu'elle a été assassinée en 1919. Ayant des rapports amoureux. Je dirais, entre guillemets, masculin, c'est dans la mesure où elle choisit ses partenaires
voilà
qui sont plus jeunes, etc. C'est une grande femme. Et non, au contraire, je trouve que les femmes, alors on peut penser ce qu'on veut de la manière dont je les représente, mais dans mon esprit, elles jouent un rôle tout à fait important. Et écoutez, un des rares prix littéraires que j'ai eu, j'en ai eu quelques-uns, mais celui qui m'a le plus touché, d'ailleurs je ne le mentionne pas dans les listes de mes livres, mais je vais le mentionner, j'ai écrit un livre qui s'appelle... Un pas vers la mer, mer au sens maritime, un pas vers la mer, qui est écrit à la première personne, et cette première personne est une femme.
Eh oui,
et j'ai eu, c'est ça qui m'a beaucoup satisfait, c'est un livre que j'ai publié en 1973, et ce livre a eu le grand prix des lectrices de Elle, qui est décerné par un jury uniquement féminin. Donc je suis absous.
Tout à fait. On a peu parlé politique, parce que vous avez eu des destinées parallèles. Au fond, on a parlé de votre rôle d'éditeur, qui a été grand, puisque vous avez aussi collaboré au livre de Martin Gray, je crois, chez Lafon.
J'ai écrit le livre de Martin Gray, au nom de tous les
chez
miens.
Lafon. Vous avez été éditeur, vous avez été journaliste, tout ça tourne autour de l'écriture du roman. Et vous avez été... homme politique, si l'on peut dire, même
c'est
dans
vrai.
La communication, mais homme politique. Alors, quand même, là, ça triche un peu, puisque vous rencontrez Mitterrand sur un plateau littéraire, déjà.
Ma première rencontre avec Mitterrand remonte à 1976. J'ai été invité de Bernard Pivot, souvent, puisque je crois que Jean d'Ormesson, qui maintenant est mon confrère à l'Académie, et moi sommes ceux qui ont été le plus souvent invités par Bernard Pivot. Pas parce que, enfin, en ce qui me concerne, pas uniquement pour mes livres, mais parce que Bernard Pivot me faisait souvent lire des livres. Et là, par exemple, quand il m'a invité, il avait invité Mitterrand, et quand il m'a invité, c'était pour dialoguer avec Mitterrand sur un livre d'histoire qui était une biographie de Louis XI, qui avait été lu avant par Giscard d'Estaing, qui en avait beaucoup parlé, et Mitterrand, manifestement, voulait lui aussi parler de Louis XI.
Ah, ça ne m'étonne pas, oui.
Et donc, j'ai dialogué avec Mitterrand, c'est ma première rencontre. Puis après, un peu par hasard, en tout cas sans l'avoir prévu, en 1981, quand Mitterrand a été élu, les socialistes niçois, je venais de démissionner de l'Express, sont venus me solliciter pour être candidat à la députation à Nice, contre Médecin, le maire de Nice, qui était un personnage sulfureux, fascinant, mais sulfureux, et qui a d'ailleurs fini sa vie d'abord en prison, puis en exil. Pour des affaires de corruption, jugées par la justice française, Dieu et son âme. J'ai accepté parce que ce rappel de mes origines sociales, la ville de Nice, c'était la circonscription de mon enfance, de celle de mon père, et j'ai fait une très courte campagne, puisque je n'étais pas du tout enraciné sur place, mais j'étais l'auteur d'un livre qui avait eu un énorme succès, notamment à Nice, qui s'appelait « La baie des anges », qui était un volume en le roman en trois volumes sur la ville
de Nice.
C'était
le roman qui vous a fait connaître du grand
voilà,
public.
Voilà, exactement.
Même. Oui, oui.
Et donc, ça s'est très bien passé. J'ai survolé cette campagne électorale. Les gens venaient me faire signer des livres. Ça a été un moment assez euphorique, assez joyeux.
Ah, joyeux.
Justement, c'est pour ça que je le dis, en y revenant. Assez joyeux, en tout cas, plein d'activités, plein de doutes, mais plein d'activités. Et j'ai été élu député. J'ai été élu député et un an et demi plus tard, à peu près, j'étais candidat en 1983, à la mairie de Nice, contre Médecin, campagne électorale très dure, très violente. Les mœurs politiques étaient très violentes à cette époque, et le sont probablement encore. Et je n'ai pas été élu, mais Mitterrand, qui changeait de politique, avait besoin d'une personnalité dont on dirait aujourd'hui qu'elle appartenait à la société civile. Quelqu'un qui n'était pas seulement un politique. Et il m'a demandé donc si je voulais bien entrer dans son gouvernement comme secrétaire d'État. J'ai donc été ministre, puisque c'est l'équivalent. Puis j'ai demandé à partir parce qu'il y avait une incompatibilité. Je ne dirais pas une incompatibilité politique, pas encore, mais il y avait une incompatibilité entre le travail solitaire de l'écrivain et le travail du politique. La politique, c'est une action collective. Vous acceptez de travailler avec les autres, toujours avec les autres, toujours sous le regard des autres, et vous n'avez plus de possibilité de retrait, finalement. Or, l'écriture, c'est un retrait. Plusieurs heures par jour, vous restez seul. Et vous en êtes très heureux, finalement.
À 4 heures du matin, paraît-il.
Par exemple.
Oui.
Et donc, j'ai démissionné. Et pour que la démission se passe sans éclat, et d'ailleurs, il n'y avait pas d'éclat, j'étais pas adapté à ce type de travail, ce type d'activité.
Vous avez donc rencontré deux des monstres sacrés de la politique récente, pour la France du moins, Mitterrand et Sarkozy. Et hors politique, jugement politique, idée politique, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans tous les deux et qu'est-ce qui vous a, oui, le plus intéressé comme romancier, voilà, ou comme biographe?
C'est difficile, moi je n'écris des biographies que sur les gens qui sont morts, en général.
Oui, l'histoire immédiate n'est pas votre...
L'histoire immédiate, je trouve que ça mérite des articles. Je ne sais pas s'il faut un certain recul.
Ah oui, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la couture de l'histoire immédiate, enfin de ce mot?
Non, mais ça, c'est chacun a son rapport.
Oui.
Moi, j'aime bien quand j'écris une biographie, j'aime bien que la vie soit close. J'ai écrit beaucoup d'articles du vivant de Mitterrand, contre Mitterrand d'ailleurs, et j'ai écrit des articles du vivant de Sarkozy pour Sarkozy.
Oui, là je parlais plus de l'homme. Qu'est-ce que vous avez appris du pouvoir, voilà, au fond? Qu'est-ce qui vous a étonné?
Oh, ça j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, là, et j'en ai tiré d'ailleurs une longue suite romanesque de 10 volumes que j'ai appelé La machinerie humaine, qui est une série de 10 romans sur la France des années 80 à peu près, 10 volumes, où traversent, passent les hommes politiques, les expériences politiques, mais elles sont tamisées par le roman.
C'est-à-dire est-ce qu'il y en a un des deux, ou les deux, qui vous ont vraiment appris des trappes, des choses trappes, des choses de derrière les fagots que vous n'auriez pas, peut-être pas soupçonnées, ou que vous...
Écoutez, non. Pas spécialement. Mitterrand était un homme qui vous tenait à distance, dans la plus grande urbanité. Ce n'était pas l'homme ni de la confidence, ni du contact, ni de l'empathie. C'était un homme qui était dans une sorte de posture hiératique, finalement. Très grande politesse, très grande culture, évidemment. Et au contraire, Sarkozy est un homme qui est dans la spontanéité, dans le contact, dans la spontanéité, dans une forme de parler vrai. Et c'est deux attitudes très différentes, deux manières très différentes d'être dans le pouvoir. Le premier, davantage dans la tradition monarchique du pays. Le second, davantage dans l'action et dans le discours sur l'action.
Quel est le personnage maintenant dont vous vous sentez le plus proche de toute votre œuvre?
Toute mon œuvre, De Gaulle, sans hésiter.
Et que vous reste-t-il alors à accomplir, Max Gallo, maintenant que vous êtes à l'Académie française?
Écoutez, il me reste toujours à écrire un grand livre, le livre qui restera définitivement comme ma pierre tombale.
Vous avez le sentiment que vous avez écrit un grand livre?
Je ne sais pas, non. Ce n'est pas une question que je me pose, dans la mesure où, si vous voulez, je sais que quand j'écris un livre, je donne le maximum de ce que je peux donner à l'instant où je l'écris. C'est-à-dire que je n'ai pas de regret en disant « ce livre, j'aurais dû l'écrire différemment, ce livre, il aurait fallu que je le reprenne, etc. » Pour moi, chacun de mes livres, d'une certaine manière, est une correction du précédent. Si un livre ne me satisfait pas, j'en écris un autre, je ne recommence pas celui-là. Je suis dans le projet plutôt que dans le travail 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez.
De Gaulle, quand il vous a reçu, a évoqué votre père. Il est assez rare que les gens qui vous reçoivent évoquent votre père. Souvent, l'académicien évoque lui-même son père en disant, comme Vitou par exemple ou Fernandez, que leur père est avec eux reçu à l'académie. Vous avez parlé de Revel selon la règle du jeu. Est-ce que vous vous êtes dit qu'une boucle était bouclée? Est-ce que vous y avez pensé réellement? Est-ce que vous...
Écoutez, j'ai écrit un livre sur mon père qui a inspiré le discours d'Alain Decaux et il a eu raison.
Mais en étant sous la coupole, est-ce que vous vous êtes dit, voilà...
Je dis ça sans orgueil ni vanité, mais Je crois, mais ce qu'on se trompe parfois, mais je crois que mon père a eu plusieurs fois dans sa vie le sentiment que, d'une certaine manière, il avait eu raison d'avoir un fils avec moi. Je dis parce que c'est vrai, parce que quand j'ai été reçu à l'agrégation d'histoire, par exemple, mon père est venu assister à ma soutenance de thèse après. C'était énorme pour lui, d'une certaine manière. Et donc, après, j'ai été ministre, donc j'ai été député du quartier où il était né, où j'étais né. Donc là aussi, c'était une forme d'aboutissement. Autrement dit, je n'ai jamais coupé avec mon père, qui est mort tard, à 93 ans, 1986. Je n'ai jamais coupé avec lui, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé, mais ce n'était pas par devoir, c'était parce que nous avions des rapports très intimes. J'ai toujours essayé de le faire cheminer en même temps que moi. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai été élu député européen, une de mes premières démarches, quand je suis allé à Strasbourg, il habitait chez mon frère qui n'était pas loin de Strasbourg, ça a été de lui faire visiter le Parlement européen, mon bureau, etc. C'est-à-dire que j'ai tenté, et mon père était capable de faire ce saut, j'ai tenté de rester avec lui dans une connivence totale et de lui faire partager ce que je vivais. Donc, s'il avait été là, eh bien, il aurait partagé ce moment-là, mais je pense qu'il avait déjà partagé beaucoup, et peut-être en avait-il assez, avait-il déjà compris que bon, tout ça se déroulait, mais effectivement, les premiers temps, il a été extrêmement préoccupé, parce que j'avais un poste de technicien dans la fonction publique. Après le bac, j'avais passé un concours. Quand je lui ai dit que j'allais démissionner de la fonction publique parce que je voulais entreprendre des études d'histoire, il m'a dit « mais tu es complètement fou ». Et là, je sais qu'il s'est angoissé, parce que pour lui, être fonctionnaire, tout ça, c'était déjà beaucoup, et je suis parti. Après, j'ai été dans l'enseignement, professeur d'université, il assiste à ma thèse. Et puis après, je lui ai dit « écoute, je vais quitter l'université pour aller dans l'édition ». Ça aussi, ça l'a traumatisé. Puis après, il s'est habitué à mes changements, il s'est dit « bon, ce gars-là a fait de l'équilibre, tant pis pour lui, ou tant mieux pour moi ».
Maintenant, ça sera votre fils.
Ça, je ne sais pas. Là, nos rapports sur ce plan-là sont très bons sur le plan du fonctionnement de la mémoire. Je doute qu'il ait le même rapport que moi à la société, qui, moi, était un rapport, entre guillemets, au fond, de, sinon de revanche, en tout cas de tentative de montrer ce dont on était capable, si vous voulez. Je ne pense pas du tout qu'il ait ce besoin-là. Et j'en suis fort heureux.
Eh bien, vous avez montré ce dont vous êtes capable, Max Gallo. Je vous remercie.
Merci.
Vous êtes un homme très secret, qui parle beaucoup, mais qui est très secret.
J'espère.
Merci. C'était l'habit vert avec Max Gallo, propos recueillis par Elisabeth Antebi.